Ça se comprend ?
Ouais, ça se comprend. Ouais, ça se comprend.
C'est vraiment très intéressant.
C'est un spécialiste.
Ah ouais, ça m'étonne rien.
N'importe quoi. Oui, mais non.
Tout de même invraisemblable.
Ça, c'est bon.
Si je peux me permettre, je suis un peu délai de tout le monde.
Pardon ?
C'est bon, ça.
C'est agréable.
Ça se comprend.
T'as compris ?
Ça se comprend.
Merci d'être avec nous sur Fréquence Mistral. Bonjour à tous, bonjour Nathalie, bonjour Max.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Nous accueillons aujourd'hui deux associations.
Oui, Olivier, aujourd'hui nous recevons dans nos studios de Manosque Laetitia Serena Bidalo pour le CIDFF 04, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, ainsi que Odette Lemaire et Mireille Sève d'Amnesty International, groupe de Manosque.
Et Nathalie, après les interviews de ces deux associations à travers leurs représentantes, le thème que nous évoquerons aujourd'hui dans la dernière partie de l'émission est la journée du 8 mars consacrée évidemment aux droits des femmes. Plaisir de vous recevoir toutes les deux pour Amnesty International, groupe de Manosque. Alors, Odette Lemaire, bonjour Odette.
Bonjour.
Et Mireille Sève, bonjour Mireille.
Bonjour.
Ma première question sera peut-être un rappel utile de ce qu'est réellement Amnesty International.
Oui, volontiers. Amnesty International, c'est 10 millions de membres dans le monde et c'est un grand mouvement qui ne cesse de bouger au fur et à mesure des politiques qui se passent. Notre force, en fait, c'est de faire progresser la justice. Notre force aussi, c'est notre impartialité et notre indépendance vis-à-vis de toute tendance politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse. Et grâce à la générosité du public, notre indépendance financière, elle assure notre liberté d'action. Alors, à Amnesty, nous avons trois grands thèmes, qui est enquêter, alerter et agir. Enquêter, nous enquêtons en rencontrant les victimes et pour recenser et pour récupérer et recouper tous leurs témoignages. Donc, ce sont 100 équipes de chercheurs d'Amnesty International qui vont dans le monde entier. Et cette indépendance financière par le don des personnes dans le monde aide à payer tous ces chercheurs. Donc, c'est une équipe de 100 chercheurs à travers le monde qui couvre 150 pays dans le monde. Nous alertons et dénonçons les actions d'État, des groupes armés et des entreprises qui bafouent les droits humains. Nous sommes 70 sections et structures et nous publions 70 rapports dans le monde chaque année. Tous les jours, des communiqués de presse, des podcasts, des vidéos. Et nous agissons avec des modes opératoires de plaidoyer, des campagnes et ciblant qui ? Les États, les organisations intergouvernementales, les groupes armés et les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Nous interpellons et ces pressions influencent les décisions en faveur des droits humains. Alors, c'est des campagnes annuelles, comme sur la campagne sur les femmes, violences faites aux femmes, sexuelles faites aux femmes. Ce sont des rendez-vous avec les pouvoirs publics. Ce sont des courriers que nous envoyons, 2 millions de courriers, et ce sont des actions urgentes où on nous demande, dans le mois, les adhérents d'Amnesty d'agir tout de suite en pétition ou en lettres. Voilà à peu près ce que fait Amnesty International. Après, nous avons énormément de combats. Je vous en cite 2-3. Encadrer le commerce des armes, donc garantir la protection des personnes réfugiées et migrantes, notamment par rapport à la Palestine. Abolir la peine de mort et la torture. Mais il y en a beaucoup d'autres.
Vous avez évoqué des chercheurs qui se rendaient dans les différents pays, 150 chercheurs, non, 100 chercheurs pour 150 pays.
Oui, pour 150 pays. Oui.
Comment procèdent-ils sur place ?
Alors sur place, ils essayent de joindre les familles, de victimes. Les congrégations religieuses, pardon, les journalistes, s'il y en a, parce que parfois il n'y en a pas. Voilà, ils interviewent les gens dans le public. Ils vont voir les associations qu'il y a encore, parce qu'il n'y en a pas toujours. Par exemple, en Russie, il n'y a plus aucun mouvement, il n'y a plus aucune association, puisque M. Poutine a tout fermé. Et c'est par ce biais-là qu'ils ont... Et après, ils rentrent à Amnesty, Londres ou Paris, et ils recoupent toutes les informations et sortent un rapport.
Ils établissent un rapport,
Établissent un rapport.
C'est parce que, franchement...
Pardon. Sachant que, depuis que Amnesty existe, 1960 quand même, on n'a jamais eu un procès. Parce que... toutes les informations qu'ils donnent prennent du temps. Amnesty, c'est le temps long.
C'est du factuel aussi, c'est
voilà,
avec
c'est
des sources.
C'est du factuel, c'est des sources, c'est du temps long, ce sont des journalistes. Et ce n'est pas possible d'agir tout de suite. Donc c'est vrai que c'est un peu le reproche qu'on lui fait, parce que les gens ont plutôt envie d'agir rapidement, mais ce n'est pas possible. Il faut être sûr et certain, comme dans le journalisme, de l'action et du fait actuel. Donc le rapport ne sort que quand c'est sûr et certain.
Parce que c'est très compliqué de collecter des informations dans des pays, des dictatures. Vous allez évoquer tout à l'heure en fin d'émission le cas de deux jeunes femmes, une iranienne, une afghane. Il y a des endroits où on peut même simplement transmettre une simple information et passible de mort pratiquement.
C'est ça, tout à fait.
Bon, est-ce qu'on peut évoquer, alors cette fois-ci, le groupe de Manosque, parce que vous êtes Amnesty International, voilà. Groupe de Manosque. Voilà. Vous êtes alors, toutes les deux et vous êtes combien?
On est une douzaine. À peu près.
Tous bénévoles.
On est tous bénévoles. Alors sachez qu'à Amnesty, on est bénévole, on paie une cotisation, on peut être individuel, c'est-à-dire travailler avec amnesty.fr et faire des courriers, signer des pétitions, envoyer des lettres dans son coin, dans sa maison, tranquille, mais on est actif. Sachez que c'est très important, c'est actif. Des lettres de soutien pour ces femmes dont on va parler, d'Iran et d'Afghanistan. Et après, s'il y a un groupe, ce groupe se demande à être actif, c'est-à-dire qu'on fait des actions, tout en étant bénévole, on fait des actions dans la ville où nous allons, ou autour de la ville d'où nous sommes. Par exemple, à Manosque, depuis quelques années, tous les décembre, nous allons au lycée international professionnel, pardon, n'importe quoi, au lycée professionnel
oui,
de Manosque. Nous allons
au
lycée professionnel de Manosque et nous faisons la semaine citoyenne à propos du racisme, des LGBT, et avec des élèves de seconde, parfois de terminale, et nous venons discuter avec eux et pendant toute la semaine, et c'est obligatoire pour les élèves. Ils n'ont pas le choix, ce sont les professeurs et les élèves, c'est obligatoire. Grâce à un professeur de français, nous étions à la bibliothèque, la médiathèque de Manosque pour changer leur histoire. Ce sont 10 personnes dans le monde que nous défendons pour les droits humains. Et
c'est une liste établie par...
C'est une liste établie par Londres, parce que le siège d'Amnesty est à Londres, et qui se répartit dans toute l'international.
Alors donc c'est des actions dirigées particulièrement sur ces 10 personnes-là?
Absolument. Et que pour ces 10 personnes-là, pendant... un temps. Normalement, c'est 10 jours, ils ont un petit peu plus rallongé, parce que selon le cas de la personne, ils se permettent de rallonger pour que la personne, si par exemple elle est dans le couloir de la mort dans un état d'Amérique, elle puisse sortir avant, puisque la pétition a marché, les lettres ont marché. Voilà.
Ça veut dire que il y a une communication particulière faite autour de ça, vous êtes plus en contact avec eux, il y a plus de gens mobilisés?
Il y a plus de gens mobilisés, mais ça c'est Amnesty Paris, Londres et Paris qui décident. On ne peut pas, nous, par exemple, groupe de Manos, décider qu'on va faire continuer une pétition comme ça. Ce n'est pas possible. Hein, tout est bien cadré, bien régulé pour les personnes.
Alors je vais vous demander à toutes les deux, on va passer la parole à Mireille Sève. Quelle était la raison de votre engagement dans cette association?
Les raisons sont, comme toujours, diverses. Mais moi, je suis très attachée aux droits humanitaires et aux droits de l'homme et des femmes.
De l'homme avec un grand H, on va dire,
voilà,
qui tout le monde,
hein,
ce sera plus simple.
Droits de l'humain. Et oui, donc, à ce titre, je connaissais Amnesty, bien évidemment, pour avoir signé ponctuellement des pétitions pour soutenir telle ou telle personne, souvent des prisonniers ou des prisonnières. Et puis j'ai eu, à la suite des deux derniers rapports qu'Amnesty International a sorti, à savoir le rapport concernant l'état d'apartheid en Israël-Palestine et le génocide à Gaza, vraiment, j'ai voulu marquer un engagement plus fort. Et j'ai fait la démarche d'adhérer et d'intégrer le groupe de Manosque, donc ça fait assez peu de temps.
C'est gratifiant comme activité, non ?
Oui. Et puis,
enfin, on ne fait pas ça pour une récompense, j'imagine. Mais...
Non, c'est, ce qui est gratifiant, c'est de sentir qu'on n'est pas seul. Et que, voilà, on est avec d'autres à mener un certain nombre de combats pour le droit, pour la justice. Voilà, c'est ça qui est le plus important.
Est-ce que vous pensez qu'Amnesty, la voix d'Amnesty porte assez dans un temps où on est au message de plus en plus court, de plus en plus violent, de plus... Comment Amnesty communique ? Parce qu'il y a les médias habituels qui vous soutiendront, les télévisions d'État ou des journaux comme Mediapart, Libération ou même Le Figaro d'ailleurs, il n'y a pas de... Mais on sent que la parole est moins forte. Enfin, c'est pas que votre parole est moins forte, mais on l'entend peut-être un peu moins.
Je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a ce temps long d'Amnesty dont parlait Odette, qui est le temps de l'étude et de sortir des rapports qui soient argumentés, étayés, des plaidoyers dont on peut se servir ensuite pour en extraire éventuellement une partie pour une communication plus directe, plus rapide, plus dans l'instant.
Oui, je pensais à des Américains récents là, qui détournent la vérité en permanence, donc c'est compliqué de lutter parfois pour faire passer des messages. Mais bon, c'est un autre débat. Odette ?
Mais sachez que les rapports d'Amnesty sont toujours très attendus quand ils sortent. Hein. Ils vont sortir là fin mars.
Ils sont annuels, excusez-moi.
Ils sont annuels, ils sont annuels. Ils sont toujours très attendus. La France y est fichée. Elle y est fichée pour les manifestations qui ne se passent pas toujours bien avec les policiers. Elle est donc voilà. Hein,
ils font des
efforts,
où
on demande des formations pour les policiers. Et tous les pays dans ce rapport y sont. Tous les pays.
Est-ce qu'on pourrait considérer que, par exemple, Amnesty International est redouté, craint, quelque part ?
Je ne pense pas redouté, craint. Enfin, je le sens.
Redouté dans le sens où si vous défendez quelqu'un, les gens se disent, mince, Amnesty International nous tombe dessus pour cette personne. Ou, ils sont, ça, est-ce que c'est une
organisation qui est... Alors, l'avantage de ça...
Vous n'avez jamais eu de procès, donc les gens se disent, si nous... Non.
Parce que les faits sont vrais.
Voilà.
Parce que les frais sont installés et sont vrais. Et surtout qu'à un moment donné, il y a des millions et des millions de lettres et d'informations et des lettres de soutien pour une seule personne. Donc, si vous voulez, quel que soit le pays que ce soit, tout le monde sait tout de tout maintenant. Donc, le gouvernement est montré du doigt. Et ils sont, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais l'Égypte, la Russie, oui, les dictatures, quoi, hein, même la Pologne. Hein, le gouvernement est montré du doigt. Et du coup... Il fait un pas de côté en se disant « Ouh là là, là, cette personne est en prison, mais toutes ces lettres, toutes ces choses
mauvaise
pour se défendre, mauvaise presse. » Donc, il faut un effort. Si petit soit-il, mais ils font un effort. Et un peu moins de torture pour quelqu'un et pas la peine de mort pour l'autre, ça reste important. Parce qu'on a toujours des bonnes nouvelles. Alors, chose qu'on n'avait pas avant, et moi, je trouve qu'on a de plus en plus de bonnes nouvelles. Parce qu'on est abonné à La Chronique, qui est une revue mensuelle. Et à chaque fois, on a des bonnes nouvelles dans cette chronique. Donc, ça veut dire que ça marche. Souvent, on dit « Oh, vos pétitions, ça ne marche pas, ça ne sera rien. » Non, ça marche. Parce que le flot de gens qui écrivent et qui signent, et de plus en plus avec Internet maintenant, c'est vraiment pour ces gens-là peut-être un souffle, peut-être quelque chose qui va changer dans leur,
donc,
qui va changer
de,
dans leur
voilà,
vie.
C'est important de le
tout
préciser.
À fait, tout
signer
à fait.
Les pétitions, si vous êtes d'accord absolument, avec Amnesty International.
Absolument.
Vous l'avez évoqué, Odette, en début d'émission, Amnesty International tient grâce à des subventions, donc ce sont des dons.
Alors oui, ce sont des dons, mais sachez que si vous êtes à l'aise financièrement, vous mettez ce que vous voulez. Si vous êtes un étudiant, pour 20 euros, vous pouvez être Amnesty, membre d'Amnesty International. Hein, il n'y a pas de problème, vous donnez votre situation. Et tout ça, vous pouvez le faire en ligne avec amnesty.fr et vous allez cliquer sur « Je voudrais adhérer à Amnesty International ». Et vous avez, mais ce n'est pas l'argent qui définit Amnesty. Les gens qui ont de l'argent vont donner plus.
C'est le pouvoir de fonctionnement.
C'est un fonctionnement et... voilà. Et Amnesty a toujours besoin de bénévoles. Hein. Il n'y a pas de souci. Toutes les associations, je crois, ont besoin de bénévoles.
Combien y a-t-il autant de groupes que de départements en France?
Ah non.
C'est par région.
Non, c'est par région. On a eu le cas par exemple de Marseille, qui est une grande ville, qui pendant pratiquement deux petites années n'ont eu aucun groupe. Alors là, il y a un groupe qui est en train de se raviver, mais c'est vrai que c'est assez étonnant qu'une ville comme Marseille n'ait aucun groupe. Comme quoi, ça demande tellement de travail, effectivement, et à la maison, et dans un groupe pour être actif, avec des projets, et de maintenir un groupe, que effectivement, des fois, c'est un peu difficile. Mais si vous croyez aux droits humains, il faut venir, parce que maintenant, c'est la société civile qui presque va défendre les droits humains, oui, et plus les gouvernements, quoi.
Alors, vous avez évoqué les deux derniers événements qui ont eu lieu grâce à Amnesty Manosque au mois de décembre. C'était donc.
Alors, il y en avait un. Alors, il y en a un qu'on fait depuis 3-4 ans au lycée professionnel de Manosque. Et l'avantage. Alors, on a un thème. Hein, on ne fait pas n'importe quoi. On a un thème sur le racisme et le mouvement LGBT. On travaille avec les professeurs et l'avantage, c'est qu'on touche énormément de classes. On y va 4-5 heures dans la semaine, voire un petit peu plus. Et on touche tous les élèves. Alors, c'est eux qui choisissent de seconde, de terminale. Et on peut aller... Là, prochainement, on va au lycée Esclangon et on va parler des journalistes, la presse et Amnesty International avec une professeure de géographie qui nous a demandé de venir parler de cas de journalistes dont les droits sont bafoués en France. Et on a fait déjà une heure et on va faire une heure là ce mois de mars pour leur faire écrire une lettre et montrer comment on fait nos lettres. Et ils vont essayer de l'envoyer, ils vont faire dans leur CDI une exposition de ce qu'ils ont travaillé avec nous. Voilà, tout le travail d'Amnesty, c'est les droits humains ben, dans les collèges, dans les lycées, dans les petites classes aussi, ça marche. Hein.
Quelle a été la réaction des jeunes, enfin des lycéens?
Ils ont été très contents, ils ont été étonnés, très contents, parce qu'ils sont pas très curieux avec leurs réseaux sociaux d'aller sur ces associations ou ces grands mouvements. Donc nous, on leur dit d'être curieux, et même pour leur travail au lycée, c'était des terminales, moi je leur dis, vous savez, si vous travaillez sur la peine de mort avec Victor Hugo, la peine de mort, je veux dire, allez sur Amnesty, vous allez avoir plein d'informations. Les violences faites aux femmes, vous aurez plein d'informations. Travaillez sur... voilà, c'est une mine d'informations, Amnesty, gratuite, sans être absolument adhérent aux membres d'Amnesty.
Il aurait été pas mal comme membre, Victor Hugo. Je pense que ça, là, ça aurait été la classe. Hein. Amnesty International et Victor Hugo. Tiens, il a bougé.
Entrez, monsieur Victor Hugo.
Eh bien, avant de... Merci, on va se retrouver, Odette et Mireille, en fin d'émission, avec le CIDFF également bientôt. On va écouter un peu de musique. Alors, avec Nathalie, nous avons choisi deux femmes fortes. Tout d'abord, Etana, qui est une des figures féminines du New Roots. Enfin, c'est du reggae jamaïcain, du reggae un peu modernifié, on va dire, c'est un terme qui n'existe pas. Née en 83 à Augustin, en Jamaïque. Alors ici, pour une reprise d'une des plus importantes chansons de Nina Simone, Young, Gifted and Black, Jeune, Doué et Noir, qui était une chanson phare hein, qu'a sorti Nina Simone et qu'elle s'est produite pour la première fois avec cette chanson en août 69 devant 50 000 personnes au Harlem Cultural Festival. Et c'est capturé sur une vidéo, je vous recommande, sous la firme qui a fait partie, je vais y arriver, d'un documentaire. Ah, et le documentaire s'intitule Summer of Soul, l'été de l'âme. Enfin, soul aussi, comme la soul music. On écoute Etana avec Young, Gifted and Black.
What a lovely precious dream.
Bonjour Laetitia Serena Bidalo, vous êtes la directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF. Toujours un peu compliqué pour moi de le...
Non, c'était dire. Parfait.
Bon, parfait. Pour Bravo. Les Alpes de Haute-Provence. J'ai révisé. Alors d'abord, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous rappeler à votre tour aux auditeurs de Fréquence Mistral les objectifs de cette structure ?
Bonjour et merci de donner la parole au CIDFF. Moi aussi, j'ai eu du mal à le dire au début, mais je me suis entraînée.
Vous avez eu quelques années pour ça.
Il m'a fallu 7 ans et c'est bon, maintenant j'y arrive. L'objectif des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est de promouvoir l'autonomie personnelle et professionnelle des femmes et de lutter contre les discriminations et de œuvrer pour un monde plus égalitaire.
D'accord. Voilà. Alors ça comprend aussi, ça je ne le savais pas, vous me l'avez appris hors plateau, ça comprend aussi les hommes.
Les CIDFF accompagnent les hommes, centres d'information sur le droit des femmes et des familles. Et peut-être que ce qui donne l'impression qu'on n'accompagnerait que des femmes, c'est qu'historiquement on n'accompagnait que des femmes. Et que ça s'est transformé au fil des années pour pouvoir aussi proposer une offre de service pour les hommes, et notamment sur les questions juridiques.
D'accord. Donc c'est un lieu d'échange, d'écoute, d'orientation, d'entraide, de solidarité auprès d'une équipe pluridisciplinaire. Alors, que peut-on retrouver comme professions qui vont aider les bénéficiaires ?
Peut-être rappeler que les centres d'information sur les droits des femmes et des familles ont une mission d'intérêt général, et que cette mission d'intérêt général, elle repose sur l'information juridique. On n'a pas de CIDFF si on n'a pas au moins un ou une juriste spécialiste en droit de la famille. C'est la colonne vertébrale des CIDFF. On retrouve à peu près un CIDFF par département, deux en fonction de la taille du département. Et on porte cette politique publique en matière de droits des femmes. Donc les CIDFF, c'est des juristes, c'est des équipes pluridisciplinaires qui vont pouvoir apporter une réponse globale aux situations qu'on peut accompagner. Donc c'est des psychologues, c'est des éducatrices, c'est des conseillères en insertion professionnelle. Les juristes, je les ai cités, c'est des chargées de mission, des formatrices pour avoir un panel de professionnels qui apportent une réponse personnalisée, individualisée en fonction des situations.
Est-ce que le CIDFF est une association indépendante ou c'est un organisme d'État ?
On est une association indépendante, mais majoritairement financée par le ministère aux droits des femmes. Ça représente à peu près 50% de nos financements. Et notre modèle économique, il est majoritairement composé de subventions publiques.
On peut peut-être donner tout de suite un site si jamais quelqu'un vous écoute et nous écoute, pardon, et veut faire un don.
On est sur Hello Asso, donc n'hésitez pas. Et sinon, CIDFF04.org.
On trouve toutes les informations.
Donc, alors moi, je pensais qu'on se tournait vers vous juste seulement lorsqu'on avait quelques problèmes, mais pas du tout. C'est ouvert, vous me disiez, à toutes les personnes qui veulent se tourner vers le CDIFF.
En fait, on n'a pas une entrée publique spécifique, on a plutôt une entrée thématique. La thématique, c'est la question de l'égalité, et autour de la question de l'égalité, cette question d'égalité, elle est transversale. Donc, on va pouvoir accompagner des entreprises à mettre en place des plans d'action autour des questions d'égalité. On va pouvoir travailler sur, effectivement, les violences sexistes et sexuelles au travail auprès de ces mêmes entreprises. On va pouvoir accompagner des personnes et principalement des femmes sur leurs projets professionnels dans le cadre d'une réflexion autour de l'élargissement des choix professionnels, par exemple. Et on est très identifié, très repéré pour les femmes qui rencontrent des difficultés, les femmes victimes de violences. On a une spécificité en plus dans le 04, c'est qu'on porte le dispositif départemental d'accompagnement de ces victimes depuis 2008 et qu'on est la structure vers qui on oriente pour l'accompagnement global.
D'accord. Il y a deux CIDFF, il y en a un sur Manosque, dites-moi sur Digne, je crois aussi également.
En fait, il n'y en a qu'un, c'est celui de Digne, et on a une antenne à Manosque, mais on a une couverture départementale. Donc, d'accord. En fait, une personne qui a besoin d'une information, elle va pouvoir en bénéficier, même si elle habite à Barcelonnette.
D'accord, très bien. Et sur Manosque, ça se trouve où ?
Alors, sur Manosque, on est justement en train de rapatrier les services du CIDFF au sein de la future maison Simone
voilà.
Veil.
C'était la question d'après. Oui. Alors, vous avez participé, je reviens dessus parce que Fréquence Mistral y était, en octobre, fin octobre dernier, je crois, la journée d'économie sociale et solidaire à la salle Oscom Manosque. Vous étiez partenaire. Ça a été très important pour le CIDFF d'être là-bas.
Oui, en effet, c'était donc les assises de l'économie sociale et solidaire qui se font depuis 3 ans sur le territoire et dont la thématique qui avait été retenue en 2024, c'était l'égalité professionnelle. Et c'est le CIDFF qui a été choisi. En fait, ce n'est pas le CIDFF, c'est la Fédération régionale des CIDFF, parce qu'on est aussi organisé en fédération régionale, qui a été sélectionnée pour accompagner cette journée-là sur ce sujet dont on a l'expertise a priori.
Oui. Alors, j'en viens donc le samedi 8 mars, là, et la date est symbolique. Il va y avoir l'inauguration de la maison Simone Veil à Manosque. C'est la première dans le département.
C'est la première dans le département. C'est un lieu en fait qui va rassembler deux projets. Donc la maison Simone Veil qui a vocation à accompagner les femmes dans toutes leurs démarches et également la maison des femmes hospitalières. Donc en fait c'est une offre de service qui va être encore plus globale que ce qu'on proposait auparavant puisqu'en fait on va décloisonner tout ce qui concerne le socio-juridique de la santé. Et souvent, c'est très cloisonné. Et donc là, on va pouvoir proposer cette offre de service avec des professionnels de santé, avec d'autres partenaires.
C'est une offre de service qui est complémentaire et qui est complète, en fait.
Et qui est essentielle dans certains des parcours. Donc il y aura des typologies de personnes accueillies et des parcours différents qui seront proposés en fonction des publics qui seront accueillis.
Est-ce que ça concerne absolument tous les publics, les actions que vous proposez ?
Alors les actions, je pense qu'il faut dissocier les actions qu'on propose au CIDFF des actions qui seront proposées à la maison Simone Veil. La maison Simone Veil, le public sera uniquement du public femme, mais l'offre de service du CIDFF, c'est pour tous les publics. Il n'y a que le service sur l'insertion et l'emploi qui est destiné aux femmes, mais du coup, il faudra que le CIDFF puisse maintenir l'offre de service pour les hommes victimes de violences, parce qu'il y en a aussi à travers d'autres lieux de permanence.
Et la violence, c'est le premier sujet auquel vous êtes confronté ?
Je vais vous donner quelques stats comme ça ça pourra peut-être un peu vous parler. En 2024, le CIDFF, il a accueilli 1500 personnes.
Dans les Alpes de Haute-Provence.
Dans les Alpes de Haute-Provence. 1500 personnes sur les deux sites. Sur ces 1500 personnes, 1200 sont des femmes, donc c'est notre public le plus important. 900 de ces personnes viennent pour de l'information juridique, puisque c'est notre entrée. On a vraiment une entrée à travers la question des droits, en fait. Hein. Et 400 sont des victimes de violences conjugales. En général, répartis, on a la même offre de services entre Digne et Manosque. Donc, en fait, on a à peu près 200 victimes qu'on accompagne chaque année sur le site de Digne et sur le site de Manosque.
Oui, c'est quand même conséquent.
Mais ça me paraît énorme, non ? Par rapport à la...
Ça fait 25%, quelque chose comme ça, c'est un quart, oui.
C'est
même une personne suffit, même une personne,
oui.
C'est trop.
Ce sont des chiffres importants, mais qui sont à la hauteur des stats nationales, hein, sachant qu'il y a quand même dans les territoires ruraux plus de féminicides rapportés au nombre de populations. C'est là où on retrouve le plus de féminicides.
Ah bon, à quoi c'est dû, ça, vous avez une idée ?
L'éloignement des services. Peut-être on n'a pas accès aux services de la même manière que dans certaines villes.
L'isolement, peut-être.
L'isolement des gens eux-mêmes, probablement.
Oui.
D'accord. Alors, sur notre territoire, qui est plutôt un territoire rural, les Alpes d'Haute-Provence, retrouve-t-on des problématiques de la monoparentalité ? Si oui, lesquelles sont-ils ? Plus qu'ailleurs, ou justement parce que c'est un territoire rural, par exemple, pour parler des familles monoparentales ?
Non, mais en fait, les statistiques, elles marchent aussi bien au niveau national que dans notre département. Nous, on accompagne, sur les femmes qu'on accompagne, 70% sont en situation de monoparentalité. Donc, plus vulnérables et avec des moyens financiers plus compliqués. Et des moyens d'autonomie. Et c'est pour ça que la question de l'insertion sociale et professionnelle, typiquement dans ce genre de situation, elle est importante.
Oui, d'accord. Donc, ce samedi 8 mars, c'est à 10h45, c'est ça ?
10h45,
qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, c'est l'inauguration de la maison Simone Veil. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2021. Qui voit le jour samedi, qui va être donc inauguré par tous les partenaires qui ont contribué au projet. Il y a des partenaires opérationnels, des partenaires financiers, les deux parfois réunis. C'est un projet qui a été co-construit avec tous les partenaires qui interviennent auprès des victimes de violences. Donc il a été réfléchi et pensé dans sa proposition d'offre de service, mais également dans la répartition des locaux. On a été suivi par un architecte pendant tout ce projet-là qui a proposé du coup des espaces qui répondent aux besoins, des espaces qui ressemblent à une maison, parce que c'est important de se sentir dans un cocon quand on a des choses difficiles à livrer. Que dire de plus
Même le choix géographique de l'espace, l'année dernière, quand il y avait eu la pré-inauguration, je ne sais pas comment on
la pose de la première pierre.
La pose de la première pierre. Oui. Il était dit à cette occasion que, ce n'était pas sur un boulevard où tout le monde, on pouvait pousser la porte de manière assez discrète.
On peut pousser la porte de manière assez discrète et on peut aussi la pousser de manière moins discrète, parce qu'en fait, ça va répondre à des besoins différents. Donc, on va mélanger les publics. Ça va être aussi un espace de ressources pour les professionnels. Ça va être le lieu où on va pouvoir aborder les questions d'égalité et aussi les questions de violence.
Oui, voilà. Non, je parlais dans ce cadre-là des femmes qui subissent des
violences. Un lieu sécurisé.
Alors, je me permets de rappeler que Simone Veil, bon, tout le monde le sait, mais j'aime bien le dire, était une ancienne ministre à l'origine, entre autres, de la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Alors, je ne me souviens plus l'année, par contre.
C'était il y a 50 ans. 50. On a fêté
74,
les... Il y a 50 ans.
Oui, c'est ça.
74, c'est ça. Ouais. 74.
Mais okay. Ça avait fait un quel courage, en plus. Ça.
Elle a bataillé.
75, en fait. Ouais.
Mais, 75. Ouais.
D'ailleurs, on parlait de violences faites aux femmes. Est-ce qu'il y a un numéro d'urgence ?
Alors, oui, il y a un numéro d'urgence, c'est un numéro national, c'est le 3919, parce que là, vous allez pouvoir le solliciter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour ça que je ne donne pas le numéro du CIDFF. Peux le donner, hein, si vous voulez. Et après, en fait, il y a le 17, hein, quand on est en danger. Je pense que c'est le numéro 1 qu'il faut garder en tête. Ouais. Et le 114, si on n'est pas en capacité de parler.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils enregistrent votre numéro et...
C'est par texto. Oui.
Par texto. Ah, par texto. Mmh. D'accord.
Oui.
Ça, c'est pour le texto 114.
Oui, en fait, c'est pour quand on ne peut pas parler.
Et donc, on fait un SMS et on fait 114.
Les victimes de violences sont parfois confrontées au fait de ne pas pouvoir... dire ce qui est en train de se passer.
C'est toujours le... Okay. C'est compliqué aussi la démarche d'aller vers le CIDFF quand on rencontre des problèmes. Ça ne doit pas être facile pour certaines femmes ou certains hommes, hein, vous l'avez dit.
Non, ce n'est pas facile. Après, on en parle de plus en plus et on a autour du procès Pellico un certain retentissement et une parole qui se libère. Oui. Et c'est pour ça que, en fait, les questions des droits des femmes, c'est des questions importantes. C'est une lutte du quotidien et il faut qu'on soit soutenu par les pouvoirs publics. Et voilà, ces mêmes institutions sont parfois en difficulté financière elles-mêmes. Donc voilà, c'est un enjeu majeur.
Donc vous sentez que les choses sont en train de changer et on a peut-être plus facilement, on ose plus facilement venir vous voir, vous le sentez vraiment, il y a une prise de, un changement.
Oui, 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 on est mieux identifié et repéré, je le sens.
Alors on va poursuivre, j'ai un petit chat dans la gorge, on va poursuivre autour du 8 mars justement, après un peu de musique Nathalie, si tu le veux bien.
Là, je
alors,
veux bien, je
une autre, une autre femme forte.
Un super morceau.
Une autre femme forte que nous avons choisie. Alors cette fois, beaucoup plus rock-punk. Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Billie No Mates, que l'on pourrait traduire par Billie Pat Pot. Et elle est née et a grandi dans l'agglomération de Leicester, donc en Angleterre, et a joué dans de nombreux groupes punk et rock assez même virulents. Et elle a toujours une attitude de combattante, mais décontractée, si je puis dire ça.
Je la connaissais pas.
Mais formidable. Et ce titre est beaucoup plus policé par rapport à sa production, donc si jamais vous voulez écouter d'autres titres, vous serez peut-être un peu surpris. On va écouter Blue Bones par Billie No Mates, paru sur l'album Cacti 1 2023. Merci Max. If you wanna die, then do it, you don't need my permission. You're such an iffy ambition.
Thank you.
Eh bien, nous sommes dans cette fameuse dernière partie d'émission, autant dire la partie 3, avec toujours...
scolaire.
C'est mon petit côté scolaire.
1, 2, 3.
Et je me tourne cette fois-ci vers Myriazem. Bah, bravo, du coup, j'en perds mes mots. Mireille, vous êtes toujours Mireille Sève. Mireille, vous vouliez évoquer quelque chose, nous disions en micro.
Oui, dans la continuité de ce qu'on disait au début de l'émission, à la fois sur le mode de travail d'Amnesty, c'est-à-dire des enquêtes, et puis sur ce qui était dit par Laetitia pour le CIDFF.
Bravo.
En fait, Amnesty a mené une enquête dernièrement sur les obstacles rencontrés par les femmes victimes de violences sexuelles qui souhaitent porter plainte en France. Et en fait, les résultats de cette enquête sont assez édifiants, c'est-à-dire qu'ils indiquent de façon très succincte et très, très vite dit qu'il y a à la fois un déni de la violence qui est subie par principalement les femmes, il y a d'une part un racisme qui s'exerce, de la transphobie, et ça va jusqu'à le refus de prendre les plaintes. Voilà. Donc, en France, les femmes qui sont victimes de viols et qui souhaitent accéder à la justice se heurtent à une nouvelle violence qui est en fait la violence de l'institution qui est censée les protéger. Et on s'aperçoit, je l'ai un peu dit, mais qu'il y a des femmes qui sont surexposées à ce risque, donc les femmes racisées, les transgenres et puis les professionnels du sexe principalement. Donc,
qui sont dans une situation la plus hypocrite qu'on puisse imaginer de la part des gouvernements, les travailleuses du sexe, je veux dire.
Que je salue au passage, que nous saluons
absolument.
Au passage.
Voilà, donc les minorités de genre sont aussi très, plus vulnérables que le reste de la population. Donc, et ça englobe des violences qui sont aussi bien physiques que sexuelles ou psychologiques. Hein. C'est malheureusement un panel qui est assez large. L'enquête qui s'est croisée aussi avec les résultats de l'Observatoire national des violences faites aux femmes dit, alors c'est quelques chiffres quand même, mais pour situer d'où on parle et de qui et de quoi on parle, on estime à 217 000 le nombre de femmes victimes de viols, de tentatives de viols ou d'agressions sexuelles en France en 2021. C'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver. Donc c'est vraiment, c'est pas une, j'allais dire, une mince affaire. Et c'est vraiment au pouvoir public... de s'en occuper et pas... c'est ce qui est attendu aussi du côté d'Amnesty dans les conclusions de cette enquête, c'est que vraiment on puisse... Enfin, toutes les femmes et les hommes, mais c'est en bien moindre nombre, puissent réellement porter plainte pour les violences sexuelles et être reçues correctement et avec dignité.
Ça a un peu changé, peut-être.
Voilà. Alors, ceci dit, ça bouge, effectivement, ça a été évoqué, mais cette enquête, elle date de 2024. Hein, donc, on est dans des données qui sont encore très actuelles.
Alors, nous voulions, diriger un peu les échanges de cette fin d'émission autour de la journée du 8 mars. Alors, après enquête, la journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations des femmes au début du XXe siècle, alors aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Mais en fait, elle a été officialisée par l'ONU, par les Nations Unies, pardon, en 1977. Et ça, j'ajouterais que je pense que c'est la date aussi à laquelle a correspondu, ou a correspondu, ou a corresponda. Le changement, justement, on l'évoquait tout à l'heure, des droits de l'homme en les droits humains. Je pense que c'est, il y a un très beau tableau à l'ONU avec cette. Mais pour la date, j'ai un petit doute. On peut revenir sur le CIDFF. 04, Laetitia. Est-ce que la journée du 8 mars, vous avez prévu quelque chose de particulier? Hormis sur quoi on va peut-être revenir avec Nathalie.
On prévoit toujours quelque chose de particulier, je dirais pour s'acculturer sur les sujets des droits des femmes, mais aussi pour proposer quelque chose d'un peu novateur. Mais surtout, l'intérêt de cette journée, c'est de faire comprendre au grand public que ce n'est pas la journée des femmes ou ce n'est pas la journée de la femme où on attend une reconnaissance particulière. Non, en fait, c'est une journée importante qui... vous venez de rappeler le pourquoi elle est arrivée là, et donc pas de fleurs pour les femmes le 8 mars. Les hommes, si vous pouvez débarrasser le lave-vaisselle les autres jours, ça nous va aussi. ces journées-là, on les dédie à des sujets de fond, des sujets importants qui collent avec l'actualité. Et là, on sort du salon de l'agriculture, et donc on va...
Oui, vous organisez aussi une table ronde sur la thématique « Être agricultrice aujourd'hui ». C'est à la salle des Gaveaux, à la mairie de Digne-les-Bains, à 14h.
Oui. À 14h, samedi. Hein.
Oui, samedi, le 8 mars. Oui, oui. Alors, c'est important, c'est... Parce que, je suis une femme, je souhaite être agricultrice aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a?
En fait, les femmes, on est empêchées dans plein de choses du quotidien, et la question de la projection dans des métiers dits masculins, elle est encore plus compliquée quand on est une femme. Les femmes, pendant longtemps, elles ont été considérées comme la femme de l'agriculteur et pas l'agricultrice. Donc, en fait, elles sont très éloignées. Les droits des femmes agricultrices, on part de très loin. Donc, c'est d'apporter, de nourrir ce sujet autour de quand est-ce qu'elles ont eu le congé maternité, de quoi est constituée leur retraite, comment elles organisent leur articulation des temps de vie entre l'exploitation agricole et la vie de famille, toutes ces questions-là.
Vous me l'apprenez, parce que je pensais que depuis longtemps, pour une femme agricultrice, ça me semblait tout à fait normal et c'était même pas un sujet, et en fait si.
Ah mais oui, mais okay. Les sujets des droits des femmes, c'est encore des sujets.
Oui, il faut pas baisser la garde. Mais je pensais que par exemple dans ce domaine-là, c'était acquis, c'était réglé. Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Pas forcément.
Il y a de quoi faire.
On en rit, mais bon.
Ça, c'est gentil.
Odette, avant de vous passer la parole pour parler de deux cas particuliers que vous défendez, vous vouliez ajouter quelque chose, Mireille?
Oui, c'était juste de compléter au niveau des chiffres, je suis désolée, mais
non,
ça me semble tout à fait éclairant. Donc, aux 217 000 femmes recensées victimes de viols et de violences en France en 2021, l'enquête montre que seulement 6% d'entre elles portent plainte, et que parmi celles qui ont porté plainte, seuls 0,6% des affaires ont pu donner lieu à une condamnation. Donc c'est pour montrer là aussi qu'il y a un écart énorme.
Le chiffre est faramineux. Parce que ce qui n'est pas déclaré, ça prouve bien que c'est un iceberg en fait. Hein, la pointe de l'iceberg, c'est les 200 000.
On est sur une justice de preuve, et la preuve dans les agressions sexuelles et dans les viols,
c'est compliqué.
Compliqué de caractériser.
J'en viens à vous, Odette. Vous vouliez évoquer le cas d'une Afghane et d'une Iranienne dont on parle, mais là vous allez plus particulièrement en parler aujourd'hui.
Oui, alors je voulais vous parler de Narges Mohammadi, qui est iranienne, qui fait cette semaine la une du Nouvel Observateur, en première page, avec un dossier.
Une très belle couve, vous dites.
Une très belle couve, oui. Magnifique, toute rouge vêtue. Elle est journaliste et défenseuse des droits humains. Prix Nobel de la paix de 2023, qu'elle n'est pas allée chercher parce qu'elle était en prison. Ce sont ses enfants, des jumeaux, qui ont récupéré le prix Nobel, parce que ses enfants, elle ne les a pas vus depuis 10 ans. Donc, elle est du mouvement Femme, Vie, Liberté. Et c'est une femme qui passe son temps à rentrer de prison de façon arbitraire. Elle a été soumise à la torture et à des mauvais traitements. Elle est sortie de prison pour aller à l'hôpital là fin 2024, parce qu'elle a des gros problèmes cardiologiques, poumons cardiologiques. Et je suis désolée de vous dire qu'avant-hier, elle est retournée en prison, normalement pour 10 ans. Donc, on lui reproche d'être contre le régime, contre la sécurité de l'État. Ça, ce sont des grands mots qu'on utilise tout le temps. Et des infractions, des dénonciations, des actes de torture qu'elle a quand même subis. Elle a écrit un livre qui s'appelle « La torture blanche ». C'est cette torture où on enferme les gens loin de tout. Dans une toute petite surface,
silence complet,
noir ou lumière selon l'envie de l'agent carcéral, et où en fait après dans la tête les gens savent plus quel temps il est, l'horaire, et ils deviennent, c'est une torture psychologique complète. Elle a écrit un livre là-dessus qui est assez intéressant.
Elle a subi cette torture blanche.
Elle non, mais elle l'a écrit parce qu'elle l'a vu. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, imaginez-vous, parce qu'elle est quand même, elle a été quand même dehors pendant 4 mois, elle a essayé de faire des rendez-vous pour la presse, pour l'international, et elle a été invitée au Sénat en France le 23 janvier. Par VPN. Elle est venue 2 heures parler avec les sénateurs qui l'ont interrogée. Et elle dit qu'il faut continuer la pression internationale suite à Femmes, Vie, Liberté. Elle dit qu'il faut aider à remettre en place les ONG des droits de l'homme. Elle dit que ce sont les organisations civiles qui montrent la voie maintenant, puisque des gouvernements se battent financièrement et politiquement. Et donc, vraiment, elle influence, elle essaye de faire en sort, tout en étant en prison, elle fait du journalisme.
Elle est
en fait.
Active.
Elle est toujours active. Alors, elle se prend des coups, parce qu'un coup, elle est punie, pas punie, elle sait pas. Et tout à l'heure, on en parlait un petit peu hors micro, mais ce sont des gens dont il faut parler, parce qu'ils savent que s'ils ont un soutien extérieur, ils tiennent le coup. Voilà, tous les soutiens, par exemple Amnesty, quand on parle de soutien extérieur, on envoie, quand on a un cas particulier d'un défenseur des droits humains, on est un groupe de gens et on ne crie que pour cette personne tous les mois. Par exemple, le groupe de Manosque a un Tunisien de la région du Rif, qui s'appelle Zesvafi, donc si c'est des noms, mais on écrit tous les mois au ministre de la Justice, et lui, on lui envoie des cartes. Il les a pas, des cartes de soutien. Il les a pas toujours, mais les parents de ce monsieur les reçoivent. Et après, il y a Amnesty Maroc qui fait une réunion et qui montre toutes les cartes que ce monsieur a reçues, et il sait que de l'extérieur, il va avoir quelque chose.
Et vous disiez, c'est important.
Et c'est très important pour eux, parce que c'est leur seule soupape de se dire, peut-être un jour, je sortirai de prison, ou je ne suis pas oubliée. Tout à fait.
Vous vouliez évoquer également une jeune femme afghane.
Alors, une dame afghane qu'on appelle l'insolente de Kaboul, qui s'appelle Shekeba Hashimi, qui était ex-diplomate d'Afghanistan, et qui, elle, dénonce le génocide qui est ignorée de l'ONU, parce que c'est 28 millions de femmes qui sont opprimées et réduites au silence.
Elle le dénonce
en Afghanistan.
Elle le dénonce en chantant.
Elle le dénonce en chantant.
Ah bon ?
Oui, parce qu'ils ne peuvent plus chanter.
Ah oui, tout à fait. Oui. Ça y est,
Non, je veux dire, c'est une musicienne,
j'ai compris,
elle chante.
Non, elle le dénonce parce qu'elle est diplomate. Les talibans, vous savez, emmurent les femmes. Aucune voix ne peut se faire entendre. La communauté internationale avec l'ONU ont réintégré les talibans et elle ne cesse de répéter inlassablement que son pays est un laboratoire de fabrication de terrorisme à cette façon d'avoir réintégré les talibans. En juin dernier, à la table des négociations de l'ONU, la condition des talibans à la table des négociations était de ne pas évoquer le statut des femmes. Et l'ONU a accepté. Donc les talibans, ils veulent mettre à terre cette résistance de toutes ces femmes. Pas d'éducation, plus d'enseignement secondaire, ne plus chanter, comme vous dites, ne plus parler entre elles, c'est nouveau. Se montrer, ne pas se montrer, car ça attise le plaisir des hommes. En transport, toujours être accompagné d'un homme. Je ne vous parle pas de les viols répétés.
L'accès à la médecine aussi.
L'accès à la médecine, qui était que des femmes, qui a été aussi enlevé. Donc, elles ne savent plus où se tourner.
Ah, je savais
et
pas.
Dernièrement, depuis le 4 février 2025, la radio, qui s'appelle la radio Begun, a été interdite. silence radio, c'est-à-dire ils ont saisi les ordinateurs, ils ont pris les disques durs, les téléphones, et ces radios étaient intéressantes pour ces femmes parce qu'elles diffusaient des programmes d'éducation, de santé, de religion aussi, hein, parce que leur religion musulmane est importante. Donc, suite à ça, la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt contre les dirigeants talibans, il fallait y penser avant, pour persécution abjecte des femmes.
C'est incroyable.
Ouais. L'obscurantisme et des voyous, enfin, voilà. C'est vraiment épouvantable.
Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on a accepté à l'international ces talibans, en disant qu'ils ont changé. Parce que c'est ce qu'on a dit, ils ont changé.
Oui, c'est ce qui a été,
C'est ce qu'on avait dit.
Alors, oui. On parvient à la fin de cette troisième partie. Alors, autant dire la fin de cette émission dans quelques minutes. Nathalie voulait apporter quelques précisions.
Alors, il y a le CDIFF qui organise, je le rappelle, une table ronde sur la thématique être agricultrice. Aujourd'hui, salle des Gaveaux à la mairie de Digne-les-Bains à 14h, si vous venez de nous rejoindre, chers auditeurs. Un autre événement également de cette journée sera la manifestation organisée par le collectif du 8 mars, toute l'année 04. Le rassemblement est prévu à 14h, place du Bourget à Fort-Calquier. La journée se poursuivra dans la même ville avec deux soirées à vos agendas. La première dès 19h à l'Esperluette à partir de 19h, avec, comme je le disais, avec un DJ set de Mina Jaja. La seconde se tiendra au Village Vert entre 19 et 23h. Et on pourra voir défiler le Pizza Sound System.
Ça pas mal. Sympa, ça, c'est sympa.
La chorale féministe, les Tortues Libres et Amazon. Zonita pour un DJ set. À 18h, le film Motre Bomi, décidément, Un monde sans femmes sera diffusé Salon des apothicaires à Saint-Étienne-les-Orgues. Et voici.
Olivier. Et enfin, Manosque, l'inauguration de la maison Simone Veil, c'est bien samedi aussi.
Oui,
samedi aussi.
Ça tombe bien, c'est le 8 mars.
On se comprend.
Alors, n'oubliez pas non plus d'aller sur amnesty.fr, signer la pétition des femmes victimes de violences sexuelles. C'est un acte juridique important. Vous écrivez au Premier ministre pour l'intégration de la notion de consentement dans le code pénal, une meilleure formation des forces de police et de gendarmerie, l'amélioration de l'accès à la justice pour toutes et le renforcement du financement des associations.
Oui, si je peux me permettre juste, vous retrouverez le podcast de l'émission sur Manosque, onglet.com, avec les coordonnées.
Sur fréquencemistral.com.
Fréquencemistral.com,
page de Manosque. Ce sera fait ce week-end. Et Mireille voulait un dernier mot rapide, alors.
Oui, très rapide.
Je suis contente de pouvoir dire ça.
Oui, c'est bien.
Rapide, on se dépêche.
Très rapidement. Pour dire qu'Amnesty International appelle à participer aux grèves féministes. Voilà, je rappelle que le droit de grève
est dans la Constitution,
c'est une valeur à laquelle on tient. Et c'est une grève pour, bien évidemment, le droit des femmes et des minorités de genre et montrer quand les femmes disparaissent du paysage, comment ça se passe. Voilà. Donc,
le monde risque de disparaître.
C'est pas vous qui nous faites rire, là, c'est qu'on lui fait signe pour les auditeurs.
D'accélérer. Parce qu'il y a le journal après.
Merci beaucoup. Merci à toutes d'avoir accepté notre invitation. Au revoir à tous.
Tu reçois gentiment.
Ah, merci.
Fréquence Mistral.
Ah bah moi aussi, hein, j'écoute Fréquence Mistral. Hein.
Encore heureux.